Et cette semaine avec Daniel Aber, on revient sur la visite de Donald Trump dans les États du Golfe et de ses conséquences sur le plan géopolitique, bien entendu. On écoute Daniel Aber, il est au micro de Blaise Van Der Linden, comme chaque semaine.
Daniel Aber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les lundis sur Radio Judaïka pour nos conversations. Alors Daniel, nous sortons d'une semaine relativement chargée en événements géopolitiques, notamment avec la tournée de Donald Trump dans le Golfe. Il s'est rendu en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Il a tenu de longues conversations et de longues discussions avec ses homologues. Alors Daniel, quelle est votre analyse de cette tournée de Donald Trump dans le Golfe?
Bon, il y a deux choses sur le plan géopolitique. Je pense que l'histoire retiendra que ça a été une étape, sinon cruciale, mais du moins importante dans ce qu'on pourrait appeler le projet Trump, hein, qui est d'apporter la paix dans la région et surtout la stabilité. Donc rien n'est réglé définitivement, mais c'est une étape dans le bon sens. Deuxièmement, sur le plan de l'image, on a vu combien le rapprochement entre les hommes était spectaculaire. Et c'est très important de voir ça, parce que ça tranche avec ce qui s'est passé juste avant. Trump, quand il est arrivé au pouvoir en 2020, avait commencé par s'attaquer à la personne même de MBS, hein, le patron, le prince héritier d'Arabie Saoudite, en disant qu'il allait en faire un paria à propos de l'affaire Khashoggi, et ça rompait avec 70 ans, 80 ans de relations très étroites entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. On peut dire que la tournée de Trump a été une immense réconciliation avec ses amis, avec des alliés arabes de très longue date. Donc là, il y a vraiment un réchauffement très net, et surtout vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, une sorte de renouvellement du pacte qu'avait été signé par Roosevelt et le grand-père de MBS, Abdelaziz Ibn Seoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite. Et c'est un renouvellement du pacte. Donc là, c'est formidable. Alors, sur le plan concret, évidemment, d'abord la signature de très nombreux contrats. D'abord des contrats de vente d'armes. On a vendu beaucoup d'armes, surtout des avions, et y compris des F-35, c'est-à-dire le meilleur avion du monde. On a aussi vendu les Américains ont aussi vendu des Boeing, donc des très juteux contrats. Tout ça a été négocié depuis très longtemps. C'est un effet d'annonce, et ben c'est allé sur plusieurs temps. Et puis surtout, l'annonce d'investissements réciproques entre ces pays du Golfe et les Américains. Les Américains vont investir. Ils le font déjà, et ils ne sont pas les seuls à investir dans les pays du Golfe. Alors c'est plutôt dans l'immobilier, dans la construction de villes nouvelles, de golf, etc. Alors que les pays du Golfe vont utiliser ce qu'on appelle les fonds souverains, c'est-à-dire ces milliers de milliards de dollars qui ont été accumulés ces dernières décennies en vendant du pétrole, pétrole dont les prix avaient explosé. Donc ils ont des caisses remplies de milliards, de pétrodollars, de dollars gagnés par la vente de pétrole et de gaz, et ces dollars, il faut les recycler dans l'avenir. Et l'avenir, c'est l'industrie moderne, c'est la technologie, et les États-Unis sont un pays où tous ces pays-là ont envie d'investir, d'autant que leurs enfants étudient dans les universités américaines. Donc là, il y a un ancrage extraordinaire de cette région avec les Américains. La deuxième chose très importante, c'est avec la Syrie. Hein, c'est cette rencontre avec Al-Shara. C'est très clair. Voilà, on va vous donner une chance. On lève les sanctions. On vous donne la possibilité de faire deux choses. D'abord, de gérer votre pays de façon calme. Hein, respectez vos minorités. C'est ça que ça veut dire. Et deuxièmement, ancrez-vous. Vous avez rompu avec l'Iran. Continuez dans cette bonne voie. Et venez, vous qui êtes Syriens, c'est-à-dire Arabes, venez dans le giron de vos alliés naturels. On a oublié qu'entre l'Égypte et la Syrie, par exemple, il y a eu une fusion dans les années 70 entre Nasser et les prédécesseurs de Saddam, la République arabe unie. Donc la Syrie appartient au monde arabe et n'appartient pas au monde iranien ni même au monde turc. Alors, puisque je parle de la Turquie aussi a été partie aux négociations avec les Américains et avec les Syriens. Et donc l'idée pour Trump, c'est d'ancrer aussi la Turquie dans l'Occident. C'est un membre de l'OTAN. Alors, c'est pas facile de gérer un Erdogan islamiste et néo-ottoman, comme on dit, c'est-à-dire très ambitieux, mais il vaut mieux le garder dans le giron occidental que de le laisser partir dans des aventures. Pendant ce temps-là, avec l'Iran, les avancées continuent, mais on s'achemine vers un mauvais accord, mais que malheureusement tout le monde sera obligé d'accepter. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au même moment où ces avancées étaient faites au Moyen-Orient, à Istanbul, justement à Istanbul, gérée par le même Erdogan, la paix en Ukraine, elle était un peu en arrêt. Et donc il y a eu une sorte de passage de témoin sous nos yeux la semaine dernière entre la priorité donnée à Trump à l'Ukraine à une priorité donnée à Trump au Moyen-Orient, qui est probablement pour Trump plus important.
Alors justement, suite à cette analyse, Daniel, on va se focaliser sur le bien de l'État d'Israël. Est-ce bon cette visite de Donald Trump pour l'État d'Israël?
Alors oui, malgré certaines apparences, c'est vrai que Bibi n'a pas été invité à participer, mais enfin, en pleine guerre avec Gaza, c'est impossible qu'un souverain arabe se montre aux côtés d'Israël, car les opinions arabes sont chauffées à blanc contre les Israéliens. Donc c'était prudent justement de rester un peu à l'écart. Évidemment que Trump n'est pas allé en Israël parce que c'était un mauvais signal, mais il se parle tout le temps évidemment. Même l'accord avec les Houthis, c'est vrai, avec les Houthis, c'est un accord séparé qui laisse Israël un petit peu en plan. Donc tout ça, c'est des commentaires qui peuvent être négatifs. Mais en regard de ça, au fond, le plus important pour Israël, c'est de voir que tout ce monde arabe, qui est soit en paix, soit qui sera en paix avec Israël, dans le cadre d'accords d'Abraham élargis, il est ancré dans le camp occidental, dans le camp américain, donc dans le camp israélien. Et donc ça laisse des possibilités extrêmement positives vers des solutions de la crise du Moyen-Orient.
Résolution du conflit, justement, au Moyen-Orient, vers quoi nous dirigeons-nous?
Moi, je pense que bon, il faut deux étapes hein, dans le conflit. Une étape à court terme, hein, cesser le feu à Gaza, puis en plus une étape à long terme pour résoudre la question palestinienne, pour pouvoir débloquer et mettre sur pied ce grand projet de Trump qui sont les accords d'Abraham. Je pense qu'on va vers un cessez-le-feu très bientôt à Gaza. Je le vois d'ailleurs avec l'intensité des attaques de Tsahal en ce moment, c'est exactement toujours ce qui précède un cessez-le-feu. Il faut prendre des gages le plus possible, donc c'est un déchaînement de force pour pouvoir aborder le cessez-le-feu dans les meilleures conditions possibles. Ce cessez-le-feu, on voit où il va. Les États arabes vont devoir mouiller la chemise, vont devoir s'impliquer. Le Hamas, s'il rend les armes, il les rendra pas à Israël, mais il les rendra à un État arabe. S'il doit y avoir une organisation sécuritaire à l'intérieur de Gaza, ça sera par des forces arabes et non pas par Tsahal. Et sur le plan de l'acheminement humanitaire et de la gestion administrative, on va vers des solutions qui sont ni l'ONU ni Israël, mais des solutions où on va mélanger les Arabes avec quelques officiels palestiniens anti-Hamas qui existent et qu'on va trouver. Donc on va trouver une formule alors qui est en train d'être négociée dans les détails, mais qui permettra quand même à Bibi de s'il cède aux pressions de Trump, et je crois que il est assez malin pour comprendre qu'aujourd'hui il peut pas faire autrement. Il a vu l'exemple de Zelensky. Hein, Zelensky s'est fait tordre le bras, mais finalement il est rentré dans le rang et c'est positif pour lui. Je pense que Bibi n'ira pas jusqu'au bout de ce que veut son gouvernement actuel. Il faudra qu'il cède une partie, mais le principal c'est la libération des otages et la fin d'une présence militaire du Hamas à Gaza. Je crois qu'on va vers ça. À plus long terme, bon, on aura le temps d'en reparler plusieurs fois, mais je crois que l'idée, c'est d'ancrer la question palestinienne dans le giron arabe et d'en finir avec l'intervention de l'Iran dans la question palestinienne. C'est exactement ce qui se dessine sous nos yeux, et c'est ça le côté le plus positif.
Et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines dans nos conversations. Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce lundi matin. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.